Laudetur Jesus Christus.
À Beyrouth, le désespoir de ceux qui attendent des nouvelles de leurs proches disparus, mais aussi la colère. Dans la capitale libanaise, des manifestations contre la classe dirigeante ont été dispersées hier soir. La mesure entrera en vigueur demain. En Allemagne, les voyageurs revenant de zones à risque devront obligatoirement se faire tester pour voir s'ils sont, oui ou non, infectés par la Covid. Berlin veut éviter une importation du virus. Fin du suspense en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara sera bien candidat à la présidentielle d'octobre. Le chef d'État sortant joue sa crédibilité avec un troisième mandat controversé. Et puis enfin au Sri Lanka, la formation du président Rajapaksa a remporté sans conteste les élections législatives de mercredi. Que fera-t-elle donc du pouvoir? C'est ce que nous verrons.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous. L'aide internationale afflue à Beyrouth. Des équipes de secours fouillent encore ce matin les décombres à la recherche de survivants. L'attente est presque terminée. Je suis paralysée par la peur, écrit sur Twitter la sœur d'un fonctionnaire du port toujours porté disparu. Ce matin, les recherches encore de premières funérailles et une colère à vif. Les forces de l'ordre libanaises ont utilisé hier soir des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants remontés contre la classe politique. À Beyrouth, Paul Ralifé.
Les Libanais ont laissé éclater leur colère dans les rues jonchées de débris du centre-ville de Beyrouth. Des dizaines de manifestants ont brûlé des pneus devant l'hôtel de ville pas loin du Parlement en scandant des slogans contre le gouvernement qu'ils accusent d'être responsable du cataclysme qui a frappé la capitale. Cette manifestation a eu lieu en dépit de l'état d'urgence qui confère à l'armée des pouvoirs spéciaux. Des affrontements ont eu lieu avec les forces anti-émeutes et plusieurs manifestants ont été blessés. Pendant ce temps, les opérations de secours se poursuivent dans une course contre la montre pour essayer de retrouver des survivants. Des dizaines de personnes restent portées disparues. Des équipes libanaises et de nombreux pays qui ont dépêché de l'aide participent aux recherches dans les décombres du port. Des plongeurs fouillent les bassins et la mer. Les dépouilles de 3 employés du port ont été retrouvées, ce qui porte à 154 le nombre de victimes. Sur le plan de l'enquête, le directeur du port, Hassan Quraytum, a été arrêté et 23 responsables ou fonctionnaires de l'administration portuaire ou des douanes ont été interdits de quitter le territoire. Leurs comptes en banque ont été gelés. Paul Khalife, Beyrouth, pour Radio Vatican.
Une conférence des donateurs pour le Liban se réunira dimanche prochain par vidéoconférence, annonce ce midi la Commission européenne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, sera lui à Beyrouth demain. Pays plus épargné que ses voisins par la Covid, l'Allemagne s'inquiète en Europe d'une hausse sensible des infections. Ce matin, 2 établissements scolaires dans le nord du pays ont dû fermer leurs portes après l'apparition de cas d'infection quelques jours seulement après la rentrée des classes. Par mesure de précaution pour freiner une importation de l'épidémie. Les autorités allemandes ont ainsi décidé d'obliger les voyageurs revenant de pays à risque à se faire tester. La mesure entre en vigueur demain. À Berlin, Delphine Herbollier.
L'annonce était attendue depuis plusieurs jours. Elle sera effective à partir de samedi. Tous les voyageurs qui rentrent d'un pays jugé à risque devront se faire tester à leur arrivée en Allemagne pour savoir s'ils sont porteurs ou non du coronavirus. Parmi les pays à risque se trouvent notamment les États-Unis, le Brésil, une partie de la Turquie, mais aussi certaines provinces d'Espagne. Jusqu'à présent, ces voyageurs devaient observer une quarantaine à la maison. Le test n'était pas obligatoire. Cette mesure intervient alors que le nombre des infections augmente sensiblement depuis quelques jours. Hier, l'Allemagne a dépassé la barre du millier de nouvelles infections par jour, soit autant qu'au mois de mai. Les autorités sanitaires et politiques observent un relâchement des Allemands dans le respect des gestes barrières et ils craignent une deuxième vague. Une crainte réelle, d'autant que les vacances sont déjà terminées dans certaines régions. Hier, c'était la rentrée scolaire dans la ville-état de Hambourg. Lundi, ce sera la rentrée à Berlin. Des rentrées scolaires voulues les plus normales possibles sur fond toutefois de pandémie. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
La rentrée avant ça, évidemment, le retour de vacances en Europe, l'été, le déconfinement n'ont pas permis la reprise espérée par l'Association des aéroports. En juillet, le trafic a été en baisse de 78% par rapport à la même période l'an dernier. Si le rythme ne s'accélère pas de manière significative, de nombreux aéroports vont tout simplement se retrouver à court d'argent, avertit l'association, sans prévenir toutefois des conséquences concrètes d'un manque de liquidité. L'indépendantiste catalan Luis Puig ne sera pas extradé vers l'Espagne. La justice belge, où l'homme est exilé, a rejeté ce matin la demande de Madrid, qui veut le juger pour la tentative de sécession de 2017 en Catalogne. À la frontière française, dans la ville italienne de Vintimille, la Croix-Rouge plie bagages. Les migrants que l'ONG accueillait seront livrés à eux-mêmes. Fermé aux nouveaux arrivants pendant le confinement, le camp d'accueil n'a pas été autorisé à rouvrir. D'ici fin août, sanitaire, douche, dortoir, tout sera démonté. En mer Méditerranée, en revanche, MSF et Sea-Watch, les deux ONG françaises et allemandes, vont s'allier pour reprendre les sauvetages à la mi-août. Il n'y en a plus aucun depuis le débarquement de l'Ocean Viking en Sicile début juillet. Le suspense a pris fin en Côte d'Ivoire dans un discours à la Nation. Hier, à la veille, aujourd'hui, du 60e anniversaire de l'indépendance du pays, le président Alassane Ouattara a annoncé qu'il allait finalement briguer un troisième mandat lors de l'élection du 31 octobre prochain. En mars dernier, Ouattara avait pourtant affirmé qu'il ne se représenterait pas, laissant la place à son dauphin et Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Mais la mort subite de ce dernier le 8 juillet a rebattu toutes les cartes. Manuela Afigi.
Alassane Ouattara a rappelé qu'il voulait passer la main aux jeunes générations. Il avait d'ailleurs déjà pensé à sa vie d'après, avait commencé à organiser ses futures activités, mais la mort subite de celui qu'il avait adoubé pour lui succéder a laissé un vide qui lui incombe désormais de remplir. C'est un cas de force majeure, dit-il, tant les défis sont nombreux pour son pays, qu'il s'agisse du maintien de la paix ou de la crise sanitaire. Le risque, souligne-t-il encore, est que les acquis de ses 9 ans de pouvoir soient perdus et que la Côte d'Ivoire recule dans bien des domaines. Le voici donc candidat sa propre succession dans l'intérêt supérieur de la nation, prend-il soin de préciser. Mais ces justifications ne convainquent pas l'opposition, pour qui cette candidature va à l'encontre de la Constitution. Celle-ci fixe en effet à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais pour Ouattara, la loi fondamentale adoptée en 2016 a remis les compteurs à 0 et ne concerne pas donc ses propres mandats. Pour plusieurs experts, cette troisième candidature risque de ternir l'image du leader ivoirien, faisant valoir un bilan en demi-teinte. La pacification du territoire reste fragile. Quant à la croissance économique record qu'il se targue d'avoir suscité, il semblerait que peu en ont bénéficié.
Manuela Afigi. En Guinée, les élections sont prévues le 18 octobre prochain et là, le suspense dure. Hier soir, le parti du président sortant a appelé Alpha Condé à se représenter pour obtenir à 82 ans un troisième mandat. Une candidature encore hypothétique mais qui a déjà fait descendre dans la rue des milliers de ses détracteurs. Les résultats sont tombés la nuit dernière. L'alliance des frères Rajapaksa au pouvoir au Sri Lanka remporte les 2/3 des sièges aux élections législatives d'hier. Plus de 75% des 16 millions d'électeurs ont participé au scrutin. C'est pour eux une victoire sans précédent. La correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
En remportant 145 sièges au Parlement, le parti présidentiel frôle une majorité des 2/3 qui lui permettra, avec l'appui de quelques députés alliés, de changer la constitution. La victoire de Gotabaya Rajapaksa pourrait être le prélude à la mise en place d'un régime autoritaire. Le président a peu à peu confisqué les leviers de pouvoir ces derniers mois. Il a dissous le Parlement en mars et placé des militaires proches de lui à des postes clés. Il a promis de changer la Constitution pour renforcer les pouvoirs présidentiels au détriment du Premier ministre et du Parlement. Malgré cet autoritarisme, la population a voté massivement pour son parti. Les Sri Lankais gardent un souvenir très douloureux des attentats de Pâques de 2019. Ils considèrent Gotabaya Rajapaksa comme un leader fort, capable de lutter contre le terrorisme. L'opinion publique a aussi apprécié les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, qui n'a fait que 11 morts. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Le sort de 400 prisonniers talibans se joue en ce moment en Afghanistan. Une grande assemblée, une Noya Jirga rassemblant 3200 dignitaires, a débuté à Kaboul ce matin. L'avenir de ces prisonniers impliqués dans des attaques meurtrières ces dernières années représente un enjeu crucial dans l'ouverture de pourparlers entre les talibans et le gouvernement. Un mois après l'entrée en vigueur du nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, voilà que le président américain repasse à l'offensive. Donald Trump a annoncé qu'il allait réimposer des droits de douane de 10% sur l'aluminium canadien à partir du 16 août. Furieux, son allié historique a dénoncé une mesure inacceptable et prévenu qu'il imposerait rapidement des mesures de rétorsion. Au Brésil, enfin, 152 évêques, soit un tiers de l'épiscopat, a publié une lettre au peuple de Dieu dans laquelle il critique durement le président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la pandémie de Covid. L'initiative a reçu l'aval de la conférence épiscopale brésilienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité du monde, bien sûr, dans l'église à travers le monde, revient ce soir à 18h. Vous serez en compagnie d'Olivier Bonnel. Je vous souhaite quant à moi une excellente journée.